Ma nem mentem iskolába.
Je ne suis pas allé au lycée ce matin.
Azaz, mentem, de csak hogy hazakéreckedjem az osztályfőnökömtől.
C'est-à-dire que j'y suis allé, mais seulement pour demander au professeur principal la permission de rentrer à la maison.
Apám levelét is átadtam neki, amelyikben családi okokra hivatkozva kérelmezi a felmentésem.
Je lui ai donné la lettre par laquelle mon père sollicitait une autorisation d'absence pour raison familiale.
Kérdezte, mi volna az a családi ok?
Il m'a demandé quelle sorte de raison familiale ce pouvait être.
Mondtam neki, hogy apámat behívták munkaszolgálatra. Akkor aztán nem is akadékoskodott tovább.
Je lui ai dit que mon père avait été réquisitionné pour le service du travail obligatoire. Alors, il n'a plus fait de difficultés.
Legközelebb mozgolódás, izgalom ébresztett föl. Odakint most már teljes ragyogással tűzött a nap. A vonat is megint haladt. Kérdeztem a fiúktól, hol vagyunk? S mondták, még mindig ugyanott. Épp most indultunk tovább. Akkor hát ezúttal a zökkenő ébreszthetett, úgy látszik. De nincs kétség, tették hozzá, előttünk gyárak, településfélék láthatók. Egy perc múlva az ablaknál levők jelentették, s magam is észlelhettem a fény futó változásán, hogy valami kapuforma boltív alatt csiklottunk keresztül. Újabb perc múlva a vonat megállt, s akkor megroppant. Izgatottan azt tudatták, hogy állomást, katonákat, embereket látnak. Sokan már is szedelőcködni, gombolkozni, némelyek kivált a nők között, hevenyészve tisztálkodni, szépítkezni, fésülködni kezdtek. Kintről viszont közelgő koppanásokat, ajtók zörgését, vonatból kitóduló utasok egybekeveredő zsivaját hallottam. S most már be kellett látnom, semmi kétség, célnál vagyunk, csak ugyan. Örültem. Igen, természetesen, de éreztem másképp, mint ahogy mondjuk tegnap, vagy még inkább tegnap előtt örültem volna. Aztán szerszám csattant a mi kocsink ajtaján is, majd valaki, vagy valakik inkább félregördítették a nehéz ajtót.
Je me suis réveillé à cause du mouvement et de l'agitation. Dehors, le soleil brillait déjà de tous ses feux. Le train roulait de nouveau. J'ai demandé au gars où on était. Ils m'ont dit qu'on était toujours au même endroit, qu'on venait tout juste de repartir. Visiblement, c'était la secousse qui m'avait réveillé. Mais il n'y a pas de doute, ont-ils ajouté. On peut voir devant nous des usines, des espèces de bâtiments. Un instant plus tard, ceux qui étaient à la fenêtre ont annoncé, et moi aussi j'avais remarqué, une modification passagère de la luminosité. Qu'on était passé sous la voûte d'une sorte de portail. Encore un instant plus tard, le train s'arrêtait. Et alors ils ont annoncé fébrilement que c'était une gare. Qu'ils voyaient des soldats, des gens. Beaucoup se sont mis à ramasser leurs affaires, à se reboutonner. Certains, surtout parmi les femmes, ont commencé à se nettoyer à la va-vite, à se coiffer, à se refaire une beauté. À l'extérieur, j'entendais des coups secs se rapprocher, le fracas des portières, la clameur des gens qui se ruaient hors du train. Et il fallait bien me rendre à l'évidence, cela ne faisait plus de doute, nous étions effectivement arrivés à destination. J'étais tout naturellement content, mais autrement me semblait-il que j'aurais pu l'être la veille, disons, ou d'autant plus deux jours plus tôt. Ensuite, un outil a heurté notre wagon, et puis un homme, ou plutôt plusieurs, ont fait rouler la lourde portière. D'abord, j'ai entendu leur voix. Ils parlaient en allemand, ou dans une langue qui y ressemblait beaucoup, qui sonnait pareil, tous en même temps. Pour autant que j'ai pu comprendre, ils souhaitaient qu'on descende. Mais au lieu de cela, il me semblait que c'était eux qui se pressaient au milieu de nous. Pour l'instant, je ne voyais rien. Déjà, le bruit courait qu'il fallait laisser sur place les valises et les paquets. Ensuite, comme c'était expliqué, traduit et passé de bouche à oreille autour de moi, tout le monde pourrait récupérer son bien, cela va de soi. Mais d'abord, les objets devaient passer à la désinfection, et nous à la douche. Effectivement, il était grand temps, c'est aussi mon avis. Ensuite, quand ils se sont affairés plus près de moi, j'ai enfin vu les gens d'ici. J'étais vraiment très surpris, car en fin de compte, c'était la première fois de ma vie que je voyais, du moins d'aussi près, de véritables détenus, avec la tenue à rayures, la tête rasée et la casquette ronde des malfaiteurs. Sur le coup, j'ai eu un mouvement de recul, naturellement. Certains répondaient aux questions des gens. D'autres balayaient le wagon du regard, d'autres encore, avec l'efficacité de porteurs expérimentés, commençaient déjà à sortir les bagages, et tout cela avec une rapidité de renard. Sur leur poitrine, à côté du matricule habituel des détenus, je voyais encore un triangle jaune. Mais bien que j'aie pu deviner sans peine la signification de cette couleur, elle m'a quand même sauté aux yeux d'une certaine façon. Pendant le voyage, j'avais presque oublié un peu toute cette histoire. Leur visage non plus n'inspirait pas vraiment confiance. Oreilles décollées, nez proéminent, petits yeux enfoncés, brillants de ruse. Effectivement, ils avaient l'air d'être des juifs. À tout point de vue. Je les trouvais louches et insolites. Dans l'ensemble. Dès qu'ils nous ont repérés, nous les garçons, il m'a semblé qu'ils ont été saisis d'une grande agitation. Aussitôt, ils se sont mis à chuchoter vite, avec une espèce de frénésie. Et j'ai découvert alors avec stupeur que la langue des Juifs n'était, semble-t-il, pas seulement l'hébreu. Comme je le croyais jusqu'alors. Redst du Yiddish? Redst du Yiddish? Tu parles Yiddish? Redst du Yiddish? J'avais fini par saisir leurs questions. Les gars et moi, on leur a dit « nein ». Je voyais qu'ils n'étaient pas très contents. Et alors soudain, je l'ai compris aisément, en partant de l'allemand, ils ont été très curieux de savoir notre âge. Nous disions « 14, 15 », 14-15 ans. Selon le cas, ils se sont mis à faire nom de la main, de la tête, de tout leur corps. « Sieb sein », disaient-ils tout doucement. « Sieb sein », de partout, de toutes parts. « Sieb sein ». Étonné, j'ai demandé à l'un d'eux « Warum ?» Willst du arbeiten? Il me demandait si je voulais travailler, vrillant son regard vide de ses yeux cernés dans les miens. Je lui ai dit, natürlich. Puisqu'en fin de compte, quand j'y pensais, j'étais venu pour ça. Sur quoi il m'a saisi avec sa main jaune, sèche et dure. Il m'a même fortement secoué le bras. Et donc, zip sein, je te dis, zip sein. Je voyais qu'il était en colère. Il avait l'air si... La chose avait l'air si importante pour lui, me semblait-il. Et comme on en a parlé rapidement avec les gars auparavant, j'ai accepté, avec un certain jouement, allez, va pour 16 ans. Pour continuer, il ne devait pas y avoir parmi nous, quoi qu'on dise, et tout à fait indépendamment de la vérité effective, de frères ou de sœurs, et surtout pas, à mon grand étonnement, de jumeaux. Mais avant tout, jeder arbeiten, nicht ka mide, nicht ka krank. Chacun travaille s'il n'est pas fatigué, s'il n'est pas malade. C'est ce que j'ai appris de leur part durant les 2 minutes, ou peut-être même moins, qu'il m'a fallu pour passer dans la bousculade de ma place à la porte. Et là, j'ai fait un grand bond dans la lumière du jour, à l'air libre.
Közben hallottam, de alig ügyeltem azokra a fölhívásokra, mikor egy hízben emlékszem, géplakatosi munkakörben kérették, hogy lépjenek ki a hozzáértők. Máskor ikertestvéreket, testi hibásokat, sőt, némi derültség közepette esetlegesen köztünk található törpéket, meg gyermekeket kerestek, mivel, amint hír lett, ezekre megkülönböztetett bánásmód, munkahelyet tanulás, mindenféle kedvezések várnak. Pár felnőtt bennünket is buzdított a sorban, ne szalasszuk el az alkalmat. De hát eszemben volt még a vonatbeli rabok intelme, no meg egyébként is, dolgozni, és nem gyermekmód élni volt is inkább természetesen kedvem.
À un moment, de rang par cinq, on s'est mis à la queue-leu-leu. Au même moment, on nous a dit d'ôter veste et chemise pour passer torse nu devant le médecin. Je sentais que le rythme s'accélérait. Soudain, j'ai vu deux groupes séparés. Là-bas devant, le plus important, à droite, se composait de personnes diverses. Et à gauche, le plus petit, en quelque sorte, le plus plaisant, comprenait entre autres des garçons de notre groupe. À première vue, ces derniers, du moins à mes yeux, avaient été déclarés aptes. Cependant, j'allais de plus en plus vite vers l'endroit où je distinguais au milieu de la foule des silhouettes qui allaient et venaient. Un point fixe, un uniforme impeccable, le képi haut en arc des officiers allemands. J'ai été étonné que mon tour arrive si vite. D'ailleurs, l'examen n'a pas demandé plus de 2 ou 3 secondes environ. Juste devant moi, il y avait Moscovitz. Alors lui, le docteur, lui a immédiatement montré d'un geste du doigt l'autre direction. Je l'ai encore entendu essayer d'expliquer « Arbeiten, siebzehn, siebzehn ». Mais une main qui a surgi de quelque part l'a saisie et déjà je prenais sa place. Quant à moi, je le voyais bien, le médecin me regarda plus soigneusement, me pesant d'un regard grave et attentif. Je bombais le torse pour lui montrer ma cage thoracique et je m'en souviens, j'ai même souri un peu là. Comparé à Moscovitz, j'ai tout de suite éprouvé un sentiment de confiance pour le médecin, car son visage avait une très belle apparence, sympathique, un peu allongé, rasé, avec des lèvres plutôt fines, des yeux bleus ou gris, en tout cas clairs, au regard bienveillant. J'ai tout loisir de l'observer pendant qu'il appuyait ses deux mains gantelées de chaque côté de mon visage et tirait légèrement vers le bas des deux côtés de la peau sous mes yeux, de ce geste de médecin que je connaissais déjà. Au même moment, d'une voix basse et néanmoins claire, trahissant un homme cultivé, il me demanda « Wie alt bist du ?» Mais en quelque sorte tout à fait incidemment. Je lui ai dit « 17 ». Il hocha légèrement la tête, mais plutôt parce que c'était la bonne réponse et non parce que c'était la vérité. C'est du moins le sentiment qui m'a soudain effleuré. Je remarquais également, mais c'était plutôt une impression passagère et peut-être erronée, qu'il me semblait satisfait. Il avait l'air presque soulagé. En quelque sorte, je sentais que je lui plaisais bien. Ensuite, une main encore posée sur mon visage et montrant de l'autre le côté opposé de la route, il m'a envoyé parmi les haptes. Les gars m'ont fait un triomphe. Ils riaient de joie et à la vue de ces visages rayonnants, j'ai compris la différence qui séparait en fait notre groupe de ceux d'en face. La réussite, si je ne m'abusais.
Állíthatom, hogy bizonyos fogalmakat kizárólag egy koncentrációs táborban érthetünk teljesen meg. Gyerekkorom ostoba mesének volt például gyakori szereplője az a bizonyos vándorlegény vagy szegénylegény, ki a királylány kezéért felcsap a királyhoz szolgálatra, s örömmel, mert mindössze csak 7 nap az ára. De 7 nap nálam 7 esztendő, mondja néki a király. Nos, ugyanezt mondhatom én is a koncentrációs táborról. Sose hittem volna például, hogy ilyen hamar válhat fonnyat vén ember belőlem. Otthon ehhez idő kell, 50-60 év legalábbis. Itt 3 hónap is elég volt hozzá, hogy cserben hagyjon a testem. Kijelenthetem, nincs kínosabb, nincs elkeptelenítőbb dolog, mint nap-nap után követni, nap-nap után számba venni, mennyi pusztult el belőlünk ismét.
Je peux affirmer qu'il y a des notions que nous ne pouvons comprendre totalement que dans un camp de concentration. Dans les contes stupides de mon enfance apparaissait fréquemment le personnage du vagabond ou du brigand qui entre au service du roi pour obtenir la main de la princesse, et ce avec plaisir car le prix à payer se résume en tout et pour tout à 7 jours. Mais 7 jours chez moi sont 7 années, lui dit le roi. Eh bien, je peux dire la même chose à propos du camp de concentration. Je n'aurais jamais cru, par exemple, que je me transformerais si vite en un vieil homme flétri. Au pays, il faut du temps pour cela. 50 ou 60 ans au moins. Au camp, 3 mois en suffit pour que mon corps me trahisse. Je peux affirmer qu'il n'y a rien de plus pénible, de plus décourageant que de relever, de comptabiliser jour après jour ce qui meurt en nous. Dans l'ensemble, je ne pouvais pas être satisfait par les vêtements qu'on m'avait donnés au camp de concentration. Ils étaient peu pratiques, avaient beaucoup de défauts, et qui plus est, leurs inconvénients devinrent vite une source de désagréments. En somme, je peux le dire à juste titre, ils n'ont pas fait leur preuve. Ainsi, par exemple, à l'époque des pluies fines et grises que le changement de saison rend durable, l'habit de toile se transforme en tuyau de poils rigide, dont notre peau frissonnante s'efforce d'éviter le contact humide. En vain, naturellement. Le manteau de prisonnier, qui, c'est indéniable, avait été distribué correctement, ne valait rien. Un nouveau boulet, une nouvelle couche humide, et même, à mon avis, le papier brut, des sacs de ciment que Bendy Sidrom, comme beaucoup d'autres, s'était procuré et portait sous ses habits au mépris du danger. Puisqu'un tel délit remontait vite à la surface, un coup de canne sur le dos, un autre sur la poitrine, et le bruissement trahissait aussitôt la faute. Ne constitue pas une solution satisfaisante. Et si cela ne bruisse pas, alors, à quoi bon? Je le demande. Une nouvelle entrave détrempée, embouillie, dont on ne peut se débarrasser qu'en secret. Mais le plus ennuyeux, je le dis, c'étaient les sabots. Tout avait commencé, en fait, avec la boue. Par ailleurs, je peux dire que de ce point de vue-là non plus, les connaissances que j'avais n'étaient pas tout à fait suffisantes. Au pays, j'avais déjà vu de la boue. J'y avais même pataugé. Mais je ne savais encore nullement que la boue pouvait parfois devenir notre principal souci, le théâtre de notre vie. Ce que signifie s'y enfoncer jusqu'au mollet, puis tendre toutes nos forces pour en extirper le pied d'une seule traction avec un bruit de succion, rien que pour s'y enfoncer de nouveau, 20 ou 30 centimètres plus loin. Je n'étais pas préparé à cela, et j'aurais eu beau l'être.
Már most a facipőről az derült ki, hogy letörik a sarka. Ilyenkor egy vastag, majd egy bizonyos hátsó ponton hirtelen elvékonyulós gondola formára fölkerekedő talpon járhatunk aztán. Ezen a kerek talpon előre hintáztatva magunk aféle Kejfel Jancsi bábuk mintájára. Emellett a néhai sarok helyén a kéreg meg az itt igen vékony talp között napról napra növekvő rés támad, amelyen azután minden néptünknél hideg sár, no meg vele apró kavics, mindenféle éles hordalék áramolhat akadálytalanul be. Eközben a kéreg már rég földörzsölte bokánkat, és számtalan sebet mart az alatta levő puhább környéken.
À propos des sabots, il s'avéra qu'avec le temps, les talons se cassaient. Alors on était obligé de marcher sur des semelles épaisses qui devenaient brusquement plus fines à un point donné, à l'arrière, et s'arrondissaient en forme de gondole. On basculait en avant sur ces semelles rondes comme ces jouets qu'on appelle des poussas. En outre, à la place du talon, entre le quartier et la semelle, très mince à cet endroit, apparaissait une fente qui s'élargissait de jour en jour, et à travers elle, à chaque pas, la boue froide pénétrait librement, ainsi que de petits cailloux et toutes sortes de débris tranchants. Cependant, le frottement des quartiers m'avait depuis longtemps écorché les chevilles et creusait d'innombrables blessures en dessous, aux endroits plus délicats. Ces blessures, selon leurs particularités, suintaient et devenaient collantes. De cette manière, après un certain temps, il n'y avait plus moyen de se libérer de ces chaussures. Elles devenaient impossibles à ôter, collées. Elles étaient comme un nouveau membre, une excroissance de mes pieds. Je les portais le jour, je les gardais au repos. D'ailleurs, rien que pour ne pas avoir à perdre de temps, quand je devais me lever, plus précisément sauter au bas de ma couchette deux, trois, voire jusqu'à quatre fois par nuit. Et encore, la nuit, c'était moindre mal. Après quelques difficultés, après avoir trébuché et glissé dans la boue de la cour, on finissait par arriver au but dans la lumière des projecteurs.